Barbara, les jumeaux, chapitre 2. Un sentiment m'avait longtemps poursuivi, que je n'avais jamais énergiquement combattu pour ne l'avoir pas cru susceptible de se réaliser. Quand j'apercevais au théâtre une actrice qu'on applaudissait pour son effronterie, ou au bal une fille dont la danse scandaleuse provoquait l'enthousiasme, je ne manquais pas de sentir, au fond de moi-même, comme un désir d'être aimé de l'une de ces femmes. Or, tandis que ce souhait méprisable se réalisait en partie de la manière la plus inattendue, d'où vient que j'étais triste, oppressé, honteux, que j'eusse voulu me cacher et ensevelir ma liaison dans un secret impénétrable, et toutes ces mesures préventives contre moi-même à l'aide desquelles j'essayais de me faire illusion. Je ne mettais jamais le pied dans sa chambre. Au cas d'une partie de campagne, je ne souffrais pas qu'elle dépensât un centime. Je prétendais seul supporter la dépense. J'épuisais ma bourse en vue de lui plaire, et je n'eusse pas voulu recevoir d'elle une épingle. Elle comprenait mes scrupules, cependant, et s'appliquait à les ménager. Ce n'était point assez. 20 fois, je pris la résolution de ne plus la revoir. C'est que, dans la confusion de mes idées, je pressentais qu'il n'existe, pour un honnête homme, aucun motif capable de sanctionner des relations de ce genre. C'est que ma conscience, dont j'entamais l'intégrité, se révoltait et se défendait à me faire mal. Je marchais, pour ainsi dire, courbé en deux sous mon propre mépris. Je souffrais d'autant plus que, malgré des précautions incessantes, mes camarades d'atelier avaient découvert ma passion et y faisaient parfois allusion en termes blessants. Je rencontrai un matin mon frère qui semblait faire sentinelle dans la rue de l'Ancienne Comédie. Avant de l'accoster, je ne pus résister à la jouissance de marcher dans son ombre et de le manger des yeux. À mon retour de voyage, j'avais trouvé Théodore caissier dans la maison de son parrain avec des appointements élevés. Il me saisit les mains précipitamment. « Oh, je suis heureux de te voir !» me dit-il. « Que fais-tu là ?»« Bon, j'attends mes témoins. » À mon étonnement, il répondit. « Oui, monsieur m'a insulté. Alors, je lui ai envoyé 2 de mes amis. Il faut qu'il me fasse des excuses ou qu'il se batte. » Je lui demandai le sujet de la querelle. Et Théodore me fit attendre sa réponse. Enfin, il me raconta d'un ton de gêne qu'il était amoureux. Je l'interrompis pour m'écrier « Hortense !»« Oh, je l'aime toujours autant !» répondit-il. « L'autre n'est qu'un caprice, une passion de hasard. Elle est vraiment adorable, mon ami, entretenue. Il est vrai, mais elle a de si bons cœurs. Oh, je l'ai enlevé un fat qui en est fou. Hier, au bal, dans un accès de jalousie, il m'a accusé de vivre à ses dépens. » Et à mesure que Théodore parlait, des réflexions cruelles affluaient à mon esprit. Je ne pouvais assez m'extasier à cette conformité de destin. Au moment où je me liais avec une fille de joie, il fallait que mon frère fît la connaissance d'une femme qui ne valait guère mieux. Je ne comprenais pas comment Théodore aima à la fois 2 femmes, quand moi, si ma fiancée eût vécu, j'en avais la conviction, je n'eus jamais eu d'autre amour. Après cela, pensais-je, les mœurs des gens au milieu desquels il vit expliquent sa conduite, si elle ne la justifie pas. Toujours est-il que je ne me sentis pas le courage de l'attrister par des observations. Ses témoins lui apportèrent bientôt non pas seulement des excuses écrites dans les termes les plus humbles, mais encore une invitation à déjeuner de la part de l'offenseur. Tout en m'enorgueillissant à part moi de la fermeté de mon frère, je songeais que parmi mes camarades, l'ouvrier assez faible pour exprimer de telles excuses serait tenu pour le plus large des hommes. Théodore, sans hésitation, me présenta à ses amis comme un autre lui-même. Ceux-ci me marquèrent aussitôt de l'amitié et voulurent à toute force m'emmener avec eux. Je sortis de table, la tête légèrement exaltée. Je ne me rendis pas loin chez mon patron avec l'intention d'y travailler jusqu'au soir. Quand j'arrivais, où il pouvait être 2h30, les ouvriers attendaient dans la cour le coup de cloche du travail. Les uns, couchés tout le dehors long sur le sol, au soleil, dormaient ou fumaient. Les autres, accroupis contre le mur ou accoudés sur la terre, causaient et riaient. Mon entrée occasionna un silence dont je me sentis froissé. J'en surpris quelques-uns qui se regardaient d'un air d'intelligence. Oh, j'avais subi 20 fois les mêmes mortifications sans y prendre garde. Mais en ce moment, sous l'empire de je ne sais quelle irritabilité nerveuse, je fus pris d'impatience et levai hardiment les yeux sur un groupe plus provocant que les autres. Tous baissèrent la tête, à l'exception d'un seul qui soutint mon regard avec une intrépidité menaçante. Je marchai à sa rencontre. « Pourquoi me regardez-vous ainsi ?» lui dis-je. Il se leva et me regarda avec des yeux plus grands encore, d'un air méprisant. Oh, j'étais prêt de me ruer sur lui. Un camarade détourna la querelle au moyen d'un mot. « Voyons, Joseph, dit-il, s'il te regarde ainsi, c'est qu'apparemment il te trouve bien. » Un ouvrier, grand et robuste, d'environ 45 ans, qui passait pour encourager les désordres de sa fille et en profiter, eut l'imprudence de raviver la dispute. « Oh, le fait, dit-il, est qu'on ne voit pas tous les jours d'aussi jolis poissons. » Ah, toute ma colère, sur le point de s'éteindre, se réveilla contre cet homme. Et je répliquais, « Oh oui, comme on pourrait dire en parlant de vous, qu'on en voit rarement d'aussi vieux et d'aussi laid. » L'éclat de rire que provoqua ma réplique exaspéra cet ouvrier. Il était d'ailleurs d'une humeur violente. Laissant l'allusion pour le mot cru, il me lança l'épithète la plus grossière qu'on puisse adresser à un homme, injure ignoble sous laquelle, en langue des Halles, on flétrit le souteneur des filles, celui qui vit de leurs infâmes amours. Le sang par tous ces canaux monta de ma poitrine et ma tête avec une rapidité de fusée. Il me sembla que le globe de mes yeux partait comme des balles et que mes tempes allaient éclater. Les muscles tendus à se rompre, les poings crispés. « Rétractez-vous » m'écriai-je avec désespoir et près de fondre en larmes. Et au lieu de me répondre, non moins furieux que moi, il se mit en garde. On se rangea en cercle autour de nous. La lutte était égale. Si mon adversaire avait des forces supérieures aux miennes, j'étais bien plus leste que lui. Je me vengeais par le nombre des coups de la violence des siens. Il faiblissait que je ne ressentais pas encore de fatigue. La crainte d'être vaincu par moi redoubla sa rage. À un moment, se ramassant en pelote et prenant son élan, il bondit comme la pierre d'une fronde. Comptant sur ma résistance, il ne touchait plus la terre. Mais je fis un mouvement de côté. Il trouva le vide et tomba. Il lui fut impossible de se relever, il s'était cassé la jambe. Cette rixe et l'accident qui s'ensuivit furent diversement appréciés aux alentours. La femme et la fille du blessé allèrent se plaindre chez le commissaire de police, qui s'empressa de dresser procès-verbal. Je fus traduit devant le tribunal de police correctionnel, sous la prévention d'avoir fait des blessures volontaires ayant occasionné une incapacité de travail. La plupart des témoins que je fis citer soit malveillance, soit timidité, s'embarrassèrent dans leur témoignage. Les mieux disposés affirmèrent qu'ils me croyaient ivre. Mon patron seul fit une déclaration brève en ma faveur. Le ministère public ne s'en obstina pas moins à établir un parallèle entre la vie d'un homme âgé, d'une conduite irréprochable, unique soutien d'une nombreuse famille, et celle d'un ouvrier de mœurs perdues qui ne réussissait pas de vivre en concubinage avec une fille publique. Mon avocat, dont ma cause était le début, parla longuement mais sans réussir à se faire écouter. Je fus condamné à 1 mois de prison, 15 francs d'amende et 50 francs de dommages d'intérêt. Je ne saurais dire quelle colère souleva en moi ce châtiment que j'étais fondé à croire injuste. Et depuis, je ne sais plus combien de jours, en butte à toutes sortes d'insultes, je faisais preuve d'une longanimité sans exemple. Cela me semblait d'autant plus méritoire que j'avais plus de mal à modérer l'ardeur de mon sang. La patience m'avait tout à coup manqué au plus grossier des outrages. À une rétractation que je demandais, mon adversaire avait répondu par une provocation. Oh, il était beaucoup plus robuste que moi. Je n'avais réussi à égaler Zizeno's force qu'en lassant sa vigueur. On ne pouvait attribuer l'accident qu'au hasard, sinon à sa maladresse. Alors pourquoi me condamnait-on? Parce que j'avais des rapports avec une fille. Ma conscience m'avertissait assez combien c'était honteux. Mais qu'on me dise en quoi cela touchait aux suites de la querelle. Évidemment, dans les balances où le juge pèse les accusations d'autrui, le préjugé pèse plus que le crime. J'en conçus pour la puissance que la loi donne à l'homme une terreur profonde. Mieux vaudrait être aux prises avec les vagues de la mer que tomber aux mains de la justice humaine. Au sentiment de révolte qui grondait en ma poitrine, je me sentais aussi fou que si j'eusse essayé d'abattre les murs de ma cellule à coups de tête. Je sortis de prison misanthrope. Mon patron, d'une sévérité inflexible, dès qu'il s'agissait de probité et d'intérêt, était fort coulant sur le reste. Ne jugeant pas mon cas pendable, il ne fit aucune difficulté à me reprendre chez lui. Toutefois, oh, « vous jetez un mauvais coton, me dit-il. Il en est des gens qui ont une fois affaire avec la justice. » Comme de ceux qui tentent de se suicider, on affirme qu'ils recommencent toujours et finissent fatalement par là. Mais est avis que vous feriez bien de redoubler de surveillance sur vous-même et de rompre avec votre fille perdue, ou il vous arrivera malheur. Ces conseils prophétiques répondaient à mes sentiments, mais sans m'apercevoir, je m'étais excessivement attaché à cette femme. J'avais beau me raisonner, combattre en moi son souvenir à outrance, mes souffrances intolérables, dès que je cessais de la voir, me ramenaient toujours vers elle. Il m'arriva fréquemment de lui signifier qu'elle choisit de rompre avec moi ou de renoncer à son métier ignoble. En réalité, avec la volonté ferme de me complaire, elle m'énumérait tant de formalités à remplir, tant d'obstacles à vaincre, que j'avais la conviction d'exiger une chose à peu près impossible. Je me bordais alors à la quereller, à la voir moins souvent, attaché par un redoublement de précautions qu'on ne me soupçonna pas d'avoir renoué avec elle, et enfin à dire chaque fois en la quittant « Oh, je ne la reverrai plus !» Près de 9 mois se passèrent au milieu de ces tiraillements cruels. Je prenais déjà pour de la tranquillité ce calme sinistre qui précède les catastrophes. Dans le nuage de lâcheté où je m'endormais, s'amassait la foudre qui allait consumer ma ruine. À dire vrai, en me rappelant mes incertitudes et mes luttes d'alors, Il me semble que dans nos actions capitales, nous ne sommes maîtres que des premières, et que ces premières, une fois commises, la fatalité enchaîne les autres. Il n'était pas rare que, vers les fins de mois, mon patron, qui tenait ses livres lui-même, me donna une marque de confiance exceptionnelle en m'envoyant toucher des factures. Une après-midi, il me confia un mandat à vue de 300 francs, payable chez un propriétaire qui demeurait aux environs de Chaillot. Il me recommanda de ne pas perdre de temps parce qu'il avait beaucoup à payer le lendemain. La longueur de la course, puis l'obligation où je fus d'attendre quelque temps le signataire du billet, firent que je m'en retournai à Cassétard. J'avais sur moi deux billets de banque de 100 francs fixés dans une poche de côté à l'aide d'une épingle et 100 francs en or soigneusement enveloppés dans l'un de mes goussets. Par rapport aux sommes que j'avais déjà touchées, cet argent était peu de chose. Bien que je marchasse la tête penchée de l'air d'un homme porteur d'un trésor, mes préoccupations étaient ailleurs. Je traversai les Champs-Élysées à la hauteur du rond-point. J'entendis prononcer mon nom. Je tressaillis. Levant les yeux, j'aperçus ma maîtresse en compagnie de deux femmes et de trois hommes. Vraiment honteux de la rencontrer, je lui fis un accueil glacial et la quittai brusquement. Elle courut après moi. « Tu es jaloux, me dit-elle, et tu as tort. Cet homme me fait la cour, mais il ne m'est rien. » Je n'avais point d'abord les sentiments qu'elle me prêtait. Je la fuyais par crainte d'être vue avec elle. De ce qu'ils étaient trois femmes et trois cavaliers, je n'avais donc tiré aucune conséquence. Mais son insinuation me bouleversa. La fumée de la jalousie me monta subitement au cerveau. Elle me dit encore que ces femmes étaient d'anciennes connaissances qui, la rencontrant le matin même, l'avaient décidé à passer la journée avec elle et elle doutait qu'il ne tenait qu'à moi d'être de la promenade. Je tournai les yeux du côté de l'homme qui prétendait au cœur de ma maîtresse. Oh, il était bien mieux vêtu que moi, quoique d'une manière un peu débraillée. Il me toisait d'un air de supériorité et de mépris qui me blessa cruellement et m'inspira une résolution contraire à la plus vulgaire prudence. Me disant que mon patron n'avait que faire de son argent d'ici au lendemain, et que les excuses ne me manqueraient pas pour justifier mon retard, j'obéis en aveugle à la main qui m'entraînait. J'étais du reste taciturne et dans un état d'esprit voisin de la désolation. Je n'entrais qu'à contre-cœur dans un cabaret de barrière. Je refusais d'abord de boire. Les gens avec qui je me trouvais m'inspiraient, sinon de la défiance, du moins une aversion profonde. Ils étaient d'une gaieté folle et emplissaient l'établissement de leurs éclats de rire et de leurs chansons. Ma présence ne semblait nullement gêner l'individu qui avait éveillé ma jalousie. Il prenait ma maîtresse à bras-le-corps et l'embrassait devant moi. La faible résistance qu'elle opposait à ses hardiesses me jeta par degrés dans une sourde irritation. Je crus voir qu'elle encourageait les prétentions de mon rival et je fus saisi d'un chagrin violent. Déterminé bientôt à prendre le dessus et à me séparer d'elle irrévocablement, je bus sous le prétexte de me donner du courage quand ce n'était qu'en vue de m'étourdir. Je ne cessais plus de vider mon verre qui se trouvait constamment plein. Insensiblement, l'ivresse me gagna. De mes lèvres ne s'échappaient plus que des divagations. Oh, j'avais la tête pesante, j'étais incapable de me tenir debout. Je finis par perdre la mémoire jusqu'au sentiment de ma propre existence. Aussi le lendemain, quand j'ouvris les yeux, essayai-je d'abord vainement de m'expliquer comment je me trouvais couché dans la chambre de ma maîtresse. Mais à peine me fut-il permis de rassembler deux souvenirs que je sautai à terre et fus d'un bond à mes vêtements qui gisaient sur une chaise. Je plongeai la main dans ma poche de côté, rien. Je visitai rapidement mes goussets, rien. Avec des gestes saccadés et fébriles, j'explorai toutes mes poches, je tournai, retournai mes habits, rien, rien. Je sentis à mon front et à mon visage de grosses gouttes de sueur filtrées au travers de ma chair. Une hypothèse électrisa mon esprit. Je me tournai vers ma maîtresse. À demi dressée sur mon lit, immobile comme un bloc de marbre, elle me regardait avec des yeux démesurément ouverts. Simultanément sortirent de nos gorges serrées une demande et une réponse qui ressemblaient à deux cris de désespoir. « Qu'y a-t-il » fit-elle. « Mais l'argent de mon patron » m'écriai-je. Je devins pâle de sa pâleur et m'épouvantai du visage épouvanté qu'elle eut. Notre attitude réciproque suffit à nous révéler la vérité dans toute son horreur. Cette femme, sans le vouloir, m'avait à sa douleur inexprimable attiré dans un guet-apens. Muet et morne, tandis que sur une chaise, je tenais dans mes mains ma tête qui travaillait à se fendre, elle s'habilla à la hâte et sortit. Oh, je ne sais pas combien de temps elle resta dehors. Tout ce temps, moi, je restais immobile, plongé dans une sorte d'engourdissement douloureux. Je flottais entre la vie et la mort. J'avais des visions lugubres, je me sentais crouler dans un gouffre. Je ne bougeais qu'au retour de ma maîtresse. J'accrochais mes yeux sur elle. Sa vue centupla mes tortures. Elle était blanche à faire peur, pantelante. Elle se traînait plutôt qu'elle ne marchait. Elle pouvait à peine se soutenir. Elle n'osait plus m'envisager. Une partie de la journée l'avait vraiment couru, vainement à la recherche de ses amis de la veille. À plus forte raison n'avait-elle pu découvrir la trace de ceux qui m'avaient dépouillé. On ne saurait concevoir qu'approximativement l'état dans lequel était cette malheureuse. L'inventaire de sa chambre et de ses tiroirs la jeta en proie au délire de la douleur. À l'exemple de la plupart de ses pareils, elle manquait d'économie et d'ordre. Une grande partie de ses robes et de son linge était engagée. Ses bijoux, ses bagues, sa montre, sa chaîne moitié argent et moitié cuivre n'avaient pas en somme une valeur intrinsèque de 25 francs. Quant à ses meubles dont elle pouvait disposer, puisqu'elle payait son loyer d'avance chaque semaine, elle n'en eut pas obtenu plus de 100 francs d'un brocanteur. Elle savait bien en outre qu'elle m'occasionnait trop de dépenses pour qu'il fût raisonnable de me supposer des épargnes. Tout à coup, le mot « voleur » éclata dans ma cervelle comme un coup de pistolet et me fit bondir. Je pris la fuite. Je ne réussis à me calmer un peu qu'après avoir écrit à mon frère de se trouver le soir même à la nuit chez ma tante Thérèse. « Mon frère m'aime autant que je l'aime, me disais-je. Il est prêt à mourir pour moi, comme je suis prêt à le faire pour lui. Ce qu'il a m'appartient, il serait odieux d'en douter. Il est logé, nourri, et il touche 200 francs par mois. Oh, il doit avoir de l'argent de côté. Au pis-aller, supposons qu'il n'en ait pas, il sera toujours possible de demander une avance à son parrain. Et comme les gens qui souhaitent quelque chose avec passion, j'épuisais toutes les hypothèses susceptibles de m'être contraire, et en mettant les choses au pire, je n'entrevoyais pas même la possibilité d'un échec. J'oubliais que les événements trompent presque toujours nos prévisions, si profondes et si subtiles qu'elles soient. On est tout surpris, à l'heure du dénouement, de voir surgir une objection à laquelle on n'avait point songé. L'air profondément désolé et honteux dont mon frère vint à moi me jeta tout d'abord dans un grand trouble. J'examinai son visage avec stupeur. Pâle et défait, avec des yeux rougis par des larmes récentes, il baissait la tête et semblait craindre de rencontrer mes regards. La négligence de sa toilette me frappa ensuite. Je lui sautai au cou, il reçut mes caresses sans me les rendre, éclata en sanglots. Tenaillé par l'anxiété, je lui demandai ce qu'il avait. Quelques instants, il laissa voir les marques du plus violent chagrin. Je le suppliais d'avoir compassion de moi. Il me raconta, d'une voix entrecoupée de larmes, une histoire. Oh, une histoire, c'était à mourir sur place, plus horrible encore que la mienne. Sa passion pour la fille entretenue, au sujet de laquelle il avait failli se battre, l'avait entraîné à commettre une action vraiment blâmable. Je l'ai entendu dire, rien n'est plus coûteux qu'une maîtresse qui ne trafique point de ses faveurs. Encore qu'il ne lui donna pas d'argent d'ordinaire, elle n'en était pas moins pour lui une cause de ruine. Des appointements doubles des siens n'eussent pas suffi au menu frais des superfluités, telles que voitures, spectacles, parties de campagne, toilettes, qui ne sont pour ces femmes que le nécessaire. Il s'était encore endetté pour des sommes assez fortes. Cette fille lui avait tourné la tête à force de beauté et de coquetterie. Elle n'apparaissait pas dans un bal qu'elle fut aussitôt entourée de courtisans et assaillie des offres les plus brillantes. Mon pauvre frère l'aimait à en être fou, à en avoir le vertige. Une jalousie effrénée lui donnait l'impatience de la posséder seule. Elle consentit, dans une heure de générosité, à ne plus puiser l'or dans toutes les bourses et à borner son luxe aux ressources de mon frère. La gêne ne tarda pas à se faire sentir. Elle poussa l'abnégation jusqu'à faire de l'argent avec une partie de ses bijoux et de ses robes. Mais son sacrifice, auquel elle n'entrevoyait plus de terme, ne tint pas devant les appréhensions d'une fin de mois. Elle avait des billets à payer, elle devait 3 termes dans sa maison, il lui fallait de la toilette, etc., etc. À moi de 1000 francs sur le champ, dit-elle un jour, je me trouverai demain sur la paille. C'était pour mon malheureux frère un ordre d'apporter cette somme ou de ne plus revenir. En proie au désespoir, il passa toute une nuit à chercher la solution d'un problème impossible, et finalement se résolut à une action dont sa passion frénétique lui cachait l'indignité. Depuis près de 3 ans que Théodore était caissier, son parrain, qui avait en lui une confiance sans borne, avait à peine parcouru les livres 2 ou 3 fois. Mon frère, dans sa fièvre, calcula qu'il lui serait facile de distraire 1000 francs de la caisse et de les y remettre au moins de 6 mois, sans qu'on s'en aperçût. D'ailleurs, en admettant une découverte prématurée du déficit, les prétextes affluaient à son esprit pour en donner des raisons acceptables. Il avait été trompé dans tous ses calculs. D'une part, la femme prit les 1000 francs et disparut, et de l'autre, vers le même temps, son parrain, qui était désœuvré, eut la fantaisie de constater l'état de la caisse et des livres. Théodore était absent. La surprise du patron à la fin de son travail, l'impatience avec laquelle il attendit le retour de son filleul et l'air mystérieux dont il l'appela dans son cabinet furent parfaitement remarqués. De commis, la scène fut longue et terrible. Mon frère, incapable de soutenir un mensonge, avoua tout. La honte et le remords le jetèrent aux genoux de son parrain. Des sanglots plein la gorge, le visage ruisselant de larmes, il le supplia longtemps de ne pas être sans pitié. Il montra qu'il comprenait l'étendue de sa faute. Il jura qu'aucun châtiment n'approcherait de celui que le souvenir de son action lui infligerait perpétuellement. L'indignation et la colère de son parrain s'apaisèrent peu à peu devant la sincérité et la profondeur de ce repentir. Il voulut bien ne pas le chasser et tenir son déshonneur secret. Seulement, après avoir réfléchi un moment, il lui dit de l'air d'un juge « Vous comprenez, monsieur, que vous ne pouvez plus rester à votre poste. Vous ne devez plus être ce que vous étiez en entrant ici, un simple commis aux appointements de 1 000 francs. Vous cesserez jusqu'à nouvel ordre de manger à ma table et de passer vos soirées chez moi. Voyez si cela vous convient. » Théodore, tout en larmes, ajouta « Oh, j'ai à la fois perdu mon avenir et empoisonné pour toujours ma vie. J'étais presque l'égal de mon parrain et me voilà redescendu au dernier rang. Et pour comble de honte, mes camarades, qui ont de vagues soupçons, me marquent du mépris et s'éloignent de moi. Ils ne parviendront pas d'ailleurs à me mépriser autant que je le fais moi-même. Plaise à Dieu que j'ai la force de supporter une aussi horrible existence. Je pourrais obtenir mon pardon d'autrui, mais je ne l'obtiendrai jamais de ma conscience. Ah, le temps foudroyé, j'écoutais mon frère et je m'oubliais. » Quand il eut fini, 2 désespoirs au lieu d'un me lacéraient et me rouaient. J'étais saisi d'épouvante à l'aspect de ces 2 destinées qui s'obstinaient à se dérouler parallèlement. Je commençais à me croire voué au malheur, et je pensais que mon frère l'était sans doute aussi. Et cette idée attisait encore le foyer qui me brûlait la poitrine. Théodore songea à me demander ce que je lui voulais. Il était au moins inutile d'ajouter mes souffrances aux siennes. Je lui répondis que je l'avais fait venir simplement parce que j'éprouvais le besoin de le voir. J'essayais de relever son courage et je le quittais. J'étais déjà la proie d'une nouvelle espérance. En 2 enjambées, je fus dans la rue où demeurait ma sœur Augustine. La boutique était fermée. Pour avoir une idée de ma nuit, il faudrait supposer une chose impossible. Un homme, par exemple, suspendu 12 heures par les ongles au-dessus d'un gouffre de 400 pieds. Au matin, je me précipitais dans la boutique de ma sœur. L'établissement s'était à ce point agrandi que 2 garçons étaient devenus nécessaires. Ma sœur était au marché avec sa bonne. Son mari dormait encore. À l'heure où j'y retournais, mon beau-frère me dit que sa femme était en visite chez une voisine malade. Oh, l'aiguillon de 1000 guêpes me piquait le cœur. Enfin, je joignis Augustine. Il était midi passé. Je la priai de venir avec son mari dans l'arrière-boutique. Et là, d'une voix altérée par l'angoisse, je racontai succinctement ce qui m'arrivait. Je n'omis qu'une chose, la condition honteuse de ma maîtresse. À peine eus-je dit que les 300 francs de mon patron m'avaient été volés, que ma sœur s'écria « Mais c'est un mensonge !» De blanche devint rouge. « Augustine, dis-je avec une colère contenue, je n'ai jamais menti qu'une fois, et tu devrais te rappeler à quelle occasion !» Ce fut au tour de ma sœur à rougir, mais elle se remit promptement. « Je croyais que c'était Théodore, balbutia-t-elle. Peu importe, mais qu'est-ce que tu veux ?»« Eh bien, que vous me prêtiez 300 francs. »« Mais nous ne les avons pas. »« Mais songez-y, dis-je avec une énergie où il y avait de la peur et des larmes. Il s'agit pour moi de la prison et d'un déshonneur qui rejaillira sur vous. « Mais tout le fonds sont placés, » répondit froidement ma sœur. « Nous n'avons pas 100 francs à la maison. »« Mais vous ne m'emprunteriez pas pour me sauver de l'infamie ?» m'écriai-je, les poings sur mes tempes. « Eh bien, repasse dans quelques jours. Nous verrons à te faire 50 francs. »« Mais c'est 300 qu'il me faut, et tout de suite. » « Oh, alors, va les chercher ailleurs. » Je doute qu'un homme, quel qu'il soit, puisse jamais avoir autant d'éloquence, de chaleur et d'âme que j'en eus. Moi, durant les 2 heures qui suivirent, j'eusse réussi à convaincre et à faire pleurer un tigre. Mais il est des parents à côté de qui les hyènes auraient des entrailles. Autant eût valu m'adresser aux ossements d'un sépulcre. Son mari, moins impitoyable qu'elle, se laissait toucher par mon désespoir. Elle figea sa pitié d'un regard. Je fus sur le point de lui rappeler qu'elle avait eu 10 000 francs de mon père quand nous n'avions pas eu un sou. Et je compris à son visage que je ne ferais que l'irriter inutilement. D'ailleurs, une espérance ne s'évanouissait pas plus tôt en moi qu'une nouvelle y renaissait. J'avais perdu un temps précieux. Il était peut-être déjà trop tard. Je courus chez celle de mes tantes qui tenait le magasin de confiseurs. Oh, je la connaissais à peine, mais elle avait la réputation d'être sensible et généreuse. Admirer le génie du malheur quand il a juré d'écraser un homme. En entrant dans la boutique, j'appris la plus désastreuse nouvelle. Ma tante et ma sœur étaient absentes. Elles étaient parties la veille même pour assister aux noces d'un parent éloigné qui demeurait dans l'Aube. Elles ne reviendraient pas avant 3 semaines au plus tôt. À ce dernier coup, je fus pris d'une terreur comparable à celle de celui qui se noie. L'esprit voisin de l'égarement, je fis en quelque sorte le tour de moi-même, espérant encore découvrir une corde à laquelle je pourrais m'accrocher. Si je me fus senti coupable, je n'eusse pas balancé à recourir au suicide. Mais mourir, quand une accusation de vol pesait sur moi, mais c'était me condamner moi-même, cela était impossible. J'allais chez mon maître, j'eusse dû commencer par là. « Ah, voilà, » fit-il d'un ton goguenard, « vous croyez mort. Votre signalement est déjà chez le commissaire de police. » Je manquais d'air, j'étouffais, mes genoux se choquaient l'un contre l'autre. Forcé de reprendre haleine à chaque syllabe, du ton d'un homme qui bégaye, je lui appris le vol dont j'avais été victime. « Certes, dit-il, oh, vous avez mis du temps à m'apporter ces étranges nouvelles. » Je justifiais mon retard par les démarches que j'avais faites en vue de parfaire la somme qui m'avait été volée. « Me rapportez-vous au moins mon argent ?» me demanda-t-il. « Non, dis-je, mais je viens vous offrir de travailler sans toucher un centime jusqu'à concurrence de 300 francs. » Cet homme, d'ailleurs plein de probité, je l'ai dit, était féroce dès qu'il était question d'intérêt. « Peu marcher de dupe !» s'écria-t-il. « Vous pouvez tomber malade et mourir. Qui me paiera alors ?»« D'ailleurs, reprit-il, qui me dit que vous n'avez pas mangé cet argent ?» Vous vivez avec une fille. Je vous ai prévenu. Je parlais de mon tort comme d'un crime. Je lui jurais de renoncer pour jamais à cette créature. Il fallait venir tout de suite, fit-il avec impatience. Maintenant, il est trop tard. Vous êtes cause que j'ai eu un billet protesté. C'est un crédit de 3 000 francs que vous me faites perdre. Puis, je donnerai un bel exemple à mes ouvriers. Ce qui est fait, fait. Allez voir le commissaire, faites-lui votre déposition. » Dans l'ignorance du piège qu'il me tendait, et d'ailleurs ne songeant pas à fuir, j'allai le lendemain chez l'officier de police. Au préalable, il me demanda mon nom. Je le lui dis. Il lut un papier qui était sur son bureau. « Oh, vous arrivez à propos, me dit-il. J'allais vous faire chercher. » Il reprit, après avoir parcouru de nouveau le papier. « Vous vivez avec une fille. Vous avez volé 300 francs à votre maître. » Je m'élevai avec énergie contre cette accusation. Il m'écouta volontiers. À la suite d'un assez long interrogatoire, il fit comparaître ma maîtresse devant lui et nous confronta. Les explications que nous lui fournîmes l'un et l'autre ne lui parurent sans doute pas satisfaisantes, car il nous annonça qu'il se voyait dans la nécessité de nous maintenir en état d'arrestation. Je fus conduit entre deux agents au dépôt de la préfecture. Je compris que je n'avais plus qu'à me recommander à la miséricorde de Dieu. J'étais pris dans un engrenage qui me semblait à moi ce que la meule du moulin est au grain de blé. Plongé dans une sorte de prostration léthargique, j'obéissais en machine aux gens du pouvoir desquels j'étais. Je n'avais plus de larmes dans le corps. Mes fibres étaient détendues et molles. Ma faculté de souffrir même était comme usée. J'eus pourtant un moment de réveil et d'espoir. Ce fut quand un avocat nommé d'office vint me visiter dans ma prison. Il m'invita à lui conter mon affaire. Assis sur un banc, les jambes croisées l'une sur l'autre, les yeux fermés, il ne cessa pas, pendant que je parlais, d'agiter les pouces circulairement en sens inverse. Il m'interrompit enfin pour me dire, en clignant de l'œil d'un air narquois, « Oui, oui, je vois ce que c'est. Loin d'être l'auteur du vol dont on nous accuse, nous soutenons qu'on nous a volé. Oh, ce n'est pas neuf, mais ça réussit encore quelquefois. Il y a espoir. » Le visage de cet homme ne respirait que la sordidité. Il était déjà vieux et entièrement chauve. Sa lèvre inférieure formait une saillie en cuvette où son nez rouge, long et mobile comme une trompe, semblait guetter deux ou trois dents noires. Son gros œil bleu pâle à fleur de tête et ses oreilles plates comparables à des coquilles d'huîtres achevaient d'en faire un personnage de cauchemar. Eh bien, à cette heure, je l'envisageais avec cet enthousiasme qui doit transporter une sainte à la vue d'un archange. « Sauvez-moi !» m'écriai-je, « et ma reconnaissance sera éternelle. »« fit-il. « Avez-vous des parents ou des amis ?» Sous la menace du plus cruel supplice, je n'eusse pas nommé mon frère. « Non, monsieur, dis-je. « Avez-vous de l'argent ?» À mon embarras, il se hâta d'ajouter. « Oh, ce n'est pas que je vous en demande, mon dévouement est gratuit. Votre affaire n'est pas mauvaise, oh, nous obtiendrons le minimum. » Je retombai dans un morne accablement. De l'instruction du juge, de mon entrevue avec mon défenseur, il résulta que le jour des assises, me surpris livré aux plus sinistres prévisions. Or, j'en ai acquis la triste expérience, le mal qu'on pressent arrive plus tôt que le bien qu'on souhaite. D'ailleurs, après avoir entendu le réquisitoire du procureur général et la réplique de mon avocat, j'avoue que si j'eusse été juré, mon esprit eût été fort perplexe. 20 arguments se dressaient contre moi. J'étais un suppôt de mauvais lieu. J'avais pour concubine une fille publique. Ce n'était pas la première fois que je m'asseyais sur le banc des accusés. J'avais déjà subi une condamnation pour avoir, dans ma fièvre de faire le mal, brisé la jambe d'un père de famille respectable. Je ne pouvais m'en tenir là. Le mal engendre le mal. Une fois engagé sur l'échelle du crime, il faut descendre tous les échelons. Quand on vit dans le désordre, quand on n'a plus d'autre loi que ses mauvaises passions, les ressources ne tardent pas à manquer. On a recours au vol. Bien, c'est ce que j'avais fait. Le surnom de glorieux que j'avais reçu dans les ateliers n'indiquait-il pas en moi cette vanité excessive qui pousse à tous les crimes? À une première faute, j'avais trouvé des juges indulgents. Je n'avais point été touché de cette magnanimité de la justice. Et par la récidive, je semblais avoir hâte de prouver que j'étais incorrigible. On ne saurait, sans péril pour la société, ménager ses infatigables ennemis. Il fallait une répression sévère, etc., etc. Mais que pouvait répondre à cela un homme qui ne m'avait pas écouté? Rien, sinon des mensonges ou des lieux communs rebutants. En effet, il raconta une vie qui n'était point la mienne. Il se jeta dans des considérations banales qui ne se rapportaient nullement à moi. Et ce fut avec une stupéfaction voisine du désespoir que je l'entendis, lui, mon défenseur, déclarer que du reste, j'avouais noblement ma faute et que j'en marquais un profond repentir. Au lieu d'invoquer l'impartialité de la justice, il me recommandait comme un coupable à la pitié des juges. J'eus envie de me lever et de me défendre moi-même. La honte et la douleur me clouèrent sur mon banc. Je m'entendis condamné et des circonstances atténuantes furent admises à 5 années de prison et à 10 ans de surveillance. Ma maîtresse, ou du moins la femme qu'il avait été, car elle ne l'était plus, fut acquittée.